السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. On a rappelé la semaine dernière que le prophète عليه الصلاة والسلام avait trouvé refuge dans cette grotte, la grotte de Thawr, Ghar Thawr, avec Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu, et qu'on a parlé également des versions qui ne sont pas unanimement authentiques, qui expliquent ce qui a repoussé les Quraysh, puisqu'on avait dit que les Quraysh ont trouvé la grotte de Thawr, ils ont remonté la trace du prophète Sam jusqu'à la grotte de Thawr, mais qu'en arrivant devant la grotte de Thawr, des versions authentiques nous disent qu'ils sont repartis et qu'ils ne nous ont pas trouvés. Non. Le fameux hadith qui parle du nid d'oiseaux qui aurait été devant la grotte, comme on l'a dit, c'est unanimement faible comme chaîne de transmission. Ce qu'on appelle un hadith munkar. Extrêmement faible, yani. Et le fameux hadith de la toile d'araignée, on a expliqué que certains savants l'ont fortement affaibli, comme l'Albani, rahimahullah, comme Ibn al-Jawzi. Mais d'autres, Afwan, l'ont rendu bon, l'ont rendu fiable, comme Ibn Hajar al-Asqalani ou Ibn Kathir, rahimahumallah. Ala kulli hal, donc sur cette version-là, sur ce hadith, il y a une divergence. Naam. On a également rappelé que le père d'Abu Bakr, qui est surnommé Abu Quhafa, est parti lorsqu'il a entendu que son fils Abu Bakr donc, était parti pour la hijra. Il est parti voir ses petits-enfants, donc les enfants d'Abu Bakr, et qu'il était inquiet pour eux, c'était un homme aveugle. Et que la fille d'Abu Bakr a fait croire à son grand-père Abu Quhafa qu'Abu Bakr avait laissé beaucoup d'argent, hein, elle avait caché des petits cailloux pour faire penser à des pièces d'argent. Elle a mis un habit dessus et elle lui a pris sa main puisqu'il était aveugle pour lui dire « Regarde, il nous a laissé toutes ces pièces-là. » Non. Et ensuite, on a dit que le prophète sallam a donné rendez-vous à son guide pour la hijra. Son guide, le guide qu'il a choisi, comme le hadith dit, « Hadiyan kharritan ». Et comme on a dit, « Al-kharrit » c'est al-mahir fi hidayat al-tariq. Ce qu'on appelle en arabe le kharrit, c'est celui qui est un professionnel, un spécialiste dans l'art de retracer les chemins qui ont été pris par les gens dans le désert. Le professeur Sam a choisi un homme d'abord qui était talentueux, extrêmement compétent dans cet art, et qui en plus était mushrik, idolâtre. Donc ça nous montre que le professeur Sam, ce qui comptait, c'est qu'il prenait la compétence. Même s'il n'était pas musulman, et pourtant à ce moment-là, il était en période d'hostilité avec les idolâtres. Mais à partir du moment où il peut lui faire confiance, où il a toute la compétence requise, le prophète sallam l'engage et lui demande ses services. Et en effet, c'était quelqu'un de confiance, puisqu'il n'a dit mot. Et il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a gardé les deux montures, celle d'Abu Bakr et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les a rejoints dans cette grotte et ils sont partis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne une tâche. Il lui donne un ordre, une consigne. Il l'engage pour une chose. Ramène-nous, moi, Abu Bakr, et Amr ibn Fuhayra, le servant d'Abu Bakr, ramène-nous à Médine. Il y en a quelqu'un, un guide normal, c'est facile comme travail. Pourquoi avoir besoin d'un guide extrêmement professionnel et spécialiste dans les chemins parce que, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, il n'y a aucune route, que ce soit vers le nord, vers le sud, qui n'est pas mise sous la surveillance des idolâtres de la Mecque. Va dire à quelqu'un, ramène-moi à Médine. Il y a quelqu'un, il est wanted, il est première personne à la tête mise à prix. Et il dit, je vais aller à cet endroit. Et tous ceux qui le recherchent, ils savent qu'il veut aller à cet endroit. Ramène-moi à cet endroit. N'importe quelle personne, et il refusera ce travail. Ah, c'est impossible. Je vais te faire passer par où ? Par les airs. À l'époque, l'avion n'existait pas. Et de toute façon, si l'avion existait à l'époque, ça veut dire qu'Interpol aussi aurait existé. Donc même par les airs, ça aurait été compliqué. Non. Fa'ala kulli hal. Et lui, il accepte. Et on va voir qu'il va mener son travail à bien. Exactement comme il est, c'est-à-dire comme un professionnel dans son art. La première chose qu'il fait, c'est que pour brouiller les pistes, il ne va ni vers le nord, ni vers le sud. Et il ne va pas non plus vers l'est. Donc vers le nord, il y a Médine, donc il ne peut pas aller vers le nord, c'est trop flagrant. Vers le sud, pourquoi il ne va pas vers le sud ? Parce qu'il cherche aussi les Quraysh vers le sud, puisqu'ils ont été jusqu'à la grotte de Thawr qui est vers le sud. Et surtout, aller vers le sud, ça veut dire aller aussi vers le Yémen, ou vers l'Abyssinie. Et l'Abyssinie, c'est aussi un endroit où pourrait éventuellement se réfugier le professeur Asselin, puisque c'est la première hijra, le Habasha, où le professeur Asselin est parti. Où les compagnons sont partis, les premiers compagnons qui ont fait la hijra, afouan. Taïb. Et il ne va pas non plus vers l'ouest. Et vers l'ouest, c'est quoi ? Il n'y a pas la mer. Vers l'ouest, il y a le désert, il y a d'autres tribus, Donc on peut aussi penser qu'il pourra aller de ce côté-là. Il va vers où ? Vers l'ouest, justement. Il ne va pas vers l'est, afouan. Il va vers l'ouest. Pourquoi ? Parce que vers l'ouest, il y a la mer rouge. Où est-ce qu'il va aller ? Il ne peut pas aller par là. À quelques dizaines de kilomètres à l'ouest, il y a la mer. Donc il coupe tout droit vers la mer. Donc on voit déjà Yarné comment il prend son travail et comment il fait son travail. Et le professeur Hassan ne pose pas de questions parce qu'il lui fait confiance et il sait qu'il sait ce qu'il fait. Et donc il trace directement vers la mer. Et ensuite, quand il sera vers la côte, il va longer la côte. Ah, en essayant d'éviter au mieux les villes et les tribus, il longe la côte jusqu'à ce qu'il sera à hauteur au sud de Médine. Il recoupera pour aller vers Médine. Non. Mais avant d'arriver à ça, il va y avoir certaines difficultés. Les difficultés qu'il va y avoir, c'est tout d'abord que les Quraysh, donc ça fait 3 jours et 3 nuits que le prophète sallam a quitté la Mecque, et qu'ils n'arrivent pas à les retrouver. Les Quraysh, les idolâtres, n'arrivent pas à retrouver ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni Abu Bakr radiallahu anhu. Tayyip. Et donc, ils ont mis à disposition des gardes partout, qui fouillent partout, tous les chemins, les tribus, les montagnes, qui questionne, qui interroge les gens, les voyageurs. Vous avez rencontré qui ? Est-ce que vous n'auriez pas vu une personne qui est accompagnée d'une autre, etc. ? Rien. Ils ont mis la tête du prophète sallam à prix, sans chamelle. Celle d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, également, sans chamelle. Pour quiconque ramène mort ou vivant, peu importe, le prophète sallam ou Abu Bakr, mort ou vivant, sans chamelle. Rien. Et tout le monde cherche, les idolâtres cherchent, ceux qui sont ceux qui aiment les rançons et qui veulent les rançons, ils cherchent, les brigands cherchent, ceux qui veulent un peu d'argent cherchent, tout le monde cherche et personne ne trouve. Donc les Quraysh vont penser à autre chose. Ils vont aller loin au nord de la Mecque, à l'ouest de Médine, vers la côte justement, dans une tribu qui s'appelle Bani Mudlij. Dans un hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari, raconté par le compagnon Suraqa ibn Malik ibn Jushum, radiallahu anhu, il nous raconte cet événement. Et il faut rappeler que lorsque cet événement est arrivé, il n'était pas encore musulman. On va le raconter plus tard lorsqu'il se sera converti à l'islam. On va parler plus tard, Inch'Allah, de Suraqa ibn Malik ibn Jushum en détail. Mais il va lui arriver donc cet événement alors qu'il n'est pas encore musulman. Suraqa ibn Malik ibn Jushum appartient à la tribu des Bani Mudlij. Et c'est un des notables de cette tribu, une des personnes importantes de cette tribu. Qu'est-ce que le hadith nous dit ? Le hadith nous dit قال سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه دية كل واحد منهما 100 ناقة لمن أسره أو قتله فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج. Ici, on s'arrête ici, même si le hadith n'est pas terminé, mais on va le continuer, inshallah. Juste pour s'arrêter sur ce qu'il dit déjà ici au début. Il nous dit, les messagers des idolâtres de Quraysh sont venus chez nous, dans notre tribu. Ils ont été jusque-là. Leur recherche du prophète, ça a été jusque-là. Et on a dit, Bani Mudlij, c'est pas loin de Médine. Vers la côte, mais pas loin de Médine. C'est plus près de Médine que de Mecca. Et les Quraysh, quand ils cherchent le prophète, ils sont arrivés jusque-là. C'est vous dire qu'ils ont mis tous les moyens à leur disposition. Il dit, les Quraysh nous ont envoyé des ambassadeurs. Et ils nous ont prévenus et avertis qu'ils pourchassaient, recherchaient le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr. Et que pour chacun d'entre eux, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr, il y avait une rançon de 100 chamels pour quiconque soit les capturer vivants, soit les tuer, peu importe. Donc il nous dit ça. Et il dit, et alors que j'étais un jour dans une des assemblées de ma tribu des Bani Mudlij. Donc ici, la phrase, elle n'est pas terminée. Moi, j'ai arrêté le hadith ici, mais on va le continuer après. Pourquoi je m'arrête ici ? Parce qu'il est intéressant d'abord de savoir, il y en a, quand on lit le hadith comme ça, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend simplement que les Quraysh, ils ont envoyé des gens aux Bani Mudlij, comme ils ont envoyé dans toutes les autres tribus, pour leur dire, il y a une rançon pour la capture vivant ou mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou celle d'Abu Bakr, et c'est tout. Mais en fait, ici, même si le hadith ne le précise pas, quand on connaît l'histoire et on connaît les tribus arabes, on sait qu'il y a une information qui est sous-entendue dans ce hadith. C'est quoi cette information qui est sous-entendue ? C'est qu'à l'époque, les Bani Mudlij étaient connus, et c'est pour ça que les Quraysh les ont choisis, eux, pour leur donner cette information. Ils étaient connus pour être les meilleurs traceurs du désert. Ils étaient connus pour être ceux qui étaient les plus experts dans l'art de retrouver la trace des gens. C'était un art, soit des gens ils l'avaient individuellement, ils travaillaient ça, ils arrivaient à l'avoir, ou soit c'était des choses connues par tribu, comme on a encore dans nos pays d'origine. Il y a des arts qui sont connus en fonction des villes ou en fonction des tribus, en fonction des régions. Il y a des régions, ils savent faire la poterie, ils sont connus pour la poterie par exemple. Il y a des régions, par exemple la ville de Fès, elle est connue, même si dans tout le Maroc ça se fait par exemple, mais il y a des régions où on sait que c'est leur spécialité et vont être connus pour le tannage de la peau, yani faire le cuir par exemple. Et ainsi de suite. Et bien, même si on peut trouver des traceurs par-ci et là et des professionnels dans le fait de retrouver la trace de quelqu'un, les Bani Mudlij, il n'y en a pas juste un dans les Bani Mudlij. Les Bani Mudlij sont tous connus pour être comme ça. C'est la tribu des traceurs. Quand quelqu'un cherche un traceur professionnel, il va chez les Bani Mudlij. Et ils excellent aussi dans l'art qu'on appelle en arabe al-qiyafa. Non. Qu'est-ce que c'est al-qiyafa ? Al-qiyafa, c'est le fait de connaître une personne sa personnalité, son tempérament ou même sa filiation juste en le regardant. En regardant les traits de son visage, en regardant la forme de ses pieds, de ses orteils, de ses doigts. Naam. Alors je sais, quand on entend ça aujourd'hui, on va se dire, mais c'est n'importe quoi, comment tu vas regarder quelqu'un et tu vas savoir. Ce n'est pas toi et moi. C'est des gens qui excellent dans cet art juste en voyant certaines personnes. Ils savent reconnaître en fonction de certains indices. Ce qu'on appelle plus globalement al-firasa. C'est quoi en arabe al-firasa? Al-firasa, c'est... J'ai envie de dire, il n'y a pas de mot vraiment équivalent en français, mais les mots en français qui vont se rapprocher de ce terme en arabe, al-firasa, c'est soit l'intuition, une intuition, mais l'intuition, ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais là, c'est une intuition, je sens qu'il y a quelque chose chez cet homme, et ça se réalise, ça se concrétise. Ou on peut appeler ça le flair, hein, ou certains appelleront ça le sixième sens. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui sont capables, avec certains indices que d'autres ne voient pas, ou pour eux c'est quelque chose de normal, de adi, et bien lui, juste avec ces indices-là, il sera capable de dire cet homme, laisse tomber. Pourquoi ? Mouhim, t'inquiète, moi je sais pourquoi. Et ça peut être quelque chose qui est donné par Allah Azzawajal aux gens pieux. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, le savant Ibn al-Qayyim, rahimahullah, racontait de son professeur. Le savant Ibn Taymiyyah, puisqu'il était l'élève, Ibn al-Qayyim, c'est un grand savant pour nous, mais il a été l'élève d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il racontait, il disait Ibn al-Qayyim, si je devais énumérer toutes les firasas, tous les flairs, les intuitions qui existaient chez mon professeur Ibn Taymiyyah, si je devais les écrire, j'aurais pu écrire un gros volume. Un grand ouvrage juste pour ça. Et il a donné des exemples. Il a dit, je me rappelle que lorsque les Tatars, les Mongols, ont envahi le califat abbasside, ils ont pris Bagdad, et le califat des musulmans allait de défaite en défaite face aux Tatars, et tout le monde désespérait, et ils s'approchaient dangereusement de Hacham, la Syrie, et ensuite ils ont pris la ville, carrément ils ont pris Dimashq, la ville de Damas. Les Tatars, non. Et là, tout le monde a désespéré. Ils ont dit, c'est tout, les prochains, c'est la Palestine. Après la Palestine, c'est tout, c'est l'Égypte et le Maghreb. Les musulmans sont foutus. Ibn Taymiyyah, alors que tout le monde désespérait, son élève Ibn al-Qayyim, rahimallah, a dit, Ibn Taymiyyah a dit, je jure par Allah, azza wa jal, que puisqu'ils ont pris Damas, c'est la preuve et le signe qui démontrent sans aucune ambiguïté ni aucun doute qu'ils ont perdu. Kifash, ils ont pris Damas et ils ont perdu. Au contraire, ils s'en rapprochent. Ils sont foutus. C'est fini. Et il l'a dit, Ibn al-Qayyim, rahmallah, il a dit 70 fois. Il a juré par Allah 70 fois. Il dit Ibn al-Qayyim à tel point que c'était tellement gros qu'on lui a dit « Qul insha'Allah, dis insha'Allah, si Dieu le veut. » Ibn Taymiyyah, il leur a dit, Inch'Allah, tahqiqan la ta'liqa. Inch'Allah, d'accord, il a dit Inch'Allah, mais tahqiqan, c'est-à-dire je dis Inch'Allah si Dieu le veut. Tahqiqan, c'est-à-dire si Dieu le veut, mais je sais, Yannick, ça va se réaliser. C'est-à-dire si Dieu le veut, ça va se réaliser, et ça va se réaliser parce que Dieu le veut. C'est ça que ça veut dire tahqiqan. La ta'liqan, pas Inch'Allah, comme on a l'habitude de dire. Et yani, moi je ne sais pas si ça va se réaliser, si Allah veut ça va se réaliser, sinon non. Mais là je dis Inch'Allah en sachant que ça va se réaliser, mais on dit quand même Inch'Allah parce que ça va se réaliser, mais parce qu'Allah a voulu que ça se réalise. Tafaqna ? Et évidemment ça s'est réalisé. Naam. Et ça c'est ce qu'on appelle al-firasa, l'intuition, le flair. C'est donné à certaines personnes. Aïwa. Et on peut dire, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Ou qu'on connaît beaucoup moins qu'avant. Non, mais on va y revenir, Inch'Allah. Le savant Mohammed ibn Sirin, rahimahullah, il était connu pour l'explication et l'interprétation des rêves. Mohammed ibn Sirin, rahimahullah, était connu pour l'interprétation des rêves, il en a fait un livre. Non, et ça aussi, c'est quelque chose qui se perd. Et c'est une erreur que de prendre un livre Il y a des livres qui se vendent là dans les librairies, l'interprétation des rêves, et on dit si tu vois telle chose dans un rêve, ça veut dire telle chose. Si tu vois telle chose, ça veut dire que tu vas te marier. Si tu vois telle chose, ça veut dire que tu vas mourir. Si tu... C'est pas comme ça, la science des rêves, c'est pas comme ça qu'elle s'apprend. Ibn Sirin, Mohamed Ibn Sirin, il y a quelqu'un qui est venu le voir. Et il lui a dit, il était avec ses élèves. Cette personne lui a dit, j'ai rêvé que je faisais le adhan dans mon rêve. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il lui a dit, ça veut dire que tu vas faire le pèlerinage, Inch'Allah. La personne est contente et il part. Après, il y a quelqu'un qui vient et lui dit, le même rêve, il dit, j'ai rêvé que je fais le adhan dans mon rêve. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas bientôt mourir. Kif yani ? Ses élèves lui ont dit, c'est pas normal. Yani, les deux, ils ont rêvé exactement la même chose. Il y en a un à qui tu dis, il va faire le pèlerinage, et l'autre, tu lui dis, il va mourir. Non. Mohamed ibn Sirin, rahimahullah, leur explique, il leur dit, c'est pas juste le rêve. C'est le rêve, mais ça dépend de la personne. La première personne qui est venue me voir, je voyais sur son visage la lumière. La lumière de la piété. Et donc je me suis rappelé de la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit « وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ » Et « أَذِّنْ » en arabe ça veut dire « fais l'adhan » mais ici dans le Coran c'est « appel » fais l'appel parce que l'adhan c'est l'appel et « appelle les gens au hajj » donc il a dit pour lui ça veut dire qu'il va faire le pèlerinage. Quant à l'autre, j'ai vu sur son visage qu'il n'avait pas la piété. Il y avait des signes qui montraient le contraire de la piété. Et il dit, j'ai oublié le verset où justement Allah Azza wa Jalla utilise aussi le terme de adhan pour parler de la mort. Et il a dit, je me suis rappelé de ce verset, et c'est lui, son rêve est concerné par ça. Ça veut dire qu'il va bientôt mourir. Donc il ne faut pas croire que tu vas prendre le livre, un tel y a vu ça, donc ça veut dire ça. Non, abadan. Non. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle al-firasa, le flair, le sixième sens, l'intuition. Mais il y a plusieurs sortes de firasa. Il y a le firasa, par exemple, dans les rêves. Il y a le firasa fi tatabbu'i al-athar. Le flair, l'intuition, dans le fait de savoir suivre la trace des gens. Yani, il a marché quelque part, il a laissé aucune trace derrière lui, et cette personne... Yani est capable malgré tout de dire par ici, il y a des gens qui sont passés, ils sont trois personnes, il y a une femme, il y a deux hommes. Comment tu sais tout ça, toi ? C'est pas le ilm al-ghaib, abadan. C'est pas ça, c'est pas la science de l'invisible. La science de l'invisible, il n'y a qu'Allah qui la connaît. Mais c'est un flair et une intuition qui est beaucoup plus précise que chez d'autres êtres humains. Et il y avait des tribus qui s'en caractérisaient comme la tribu des Bani Mudlij à l'époque. Ça, c'est ce qu'on appelle al-qiyafa. Il y a d'autres sortes de firasa. Il y a par exemple le firasa fi istinbati amakini wujud al-ma. Ce qu'on appelle al-riyafa. Parwafa. Aïe, parce que j'en vois tout de suite, il sourit. Al-riyafa, c'est nous, ça. Non, laisse. Même si ça existe encore, cette science-là, elle existe encore dans nos pays d'origine et en particulier dans la campagne du Rif. Parce que c'est quoi cette science ? Riyafa, c'est le fait de savoir trouver les endroits où il faut creuser pour trouver l'eau. Avant, les gens, c'est pas comme aujourd'hui. Toi, tu ouvres le robinet, mashallah, les litres d'eau, ils te déversent. Tabarakallah. Avant, non. Avant, il fallait creuser pour faire un puits. Mais tu vas creuser là, et ouais, il n'y a rien. Tu creuses à côté, il n'y a rien. Donc, comment on fait ? Pour gagner, parce que ce n'est pas évident de creuser. Tu vas creuser peut-être pendant 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, tu ne vas rien trouver. Tu es obligé d'aller te voir ailleurs, et ainsi de suite. Mais il y avait des gens, ils avaient ça, et on ne sait pas l'expliquer, C'est que lui, il sait voir par rapport à certains signes, même s'il essaye de te l'enseigner à toi, tu ne vas pas forcément le maîtriser. En fonction de l'odeur, il sent ici que la terre elle a une certaine odeur, et pour lui, ça veut dire qu'il y a l'eau. En fonction de certains insectes qui sont plus dans cet endroit-là, pour lui, ça veut dire qu'il y a de l'eau pas loin. En fonction de la végétation, en fonction de beaucoup de choses. C'est des gens, ils sont faits comme ça. Non. Moi, ça me fait rappeler, justement, quand je dis que ça existe encore, que Un de mes oncles qui habitait, il est décédé maintenant, rahmahullah, qui habitait dans la campagne, il a décidé de creuser un puits. Et moi, ça m'a fait rire, et qui fâche. Et après, quand on lit les choses, on voit que finalement, si, naam. Ils ont ramené quelqu'un qui est connu de la famille. Ils ont dit, on va ramener un tel parce que lui, il est connu pour trouver l'endroit où il y a de l'eau. Qui fâche, il va trouver l'endroit. Et il est venu, et fi'lan, il a dit, creusez là. Et ils ont creusé, ils ont trouvé l'eau. Subhanallah al-Azim. Moi, je me suis dit, ça doit être une coïncidence, c'est pas possible. Walakin, sahih, il y a des gens, ils ont ce flair-là, ils ont ces intuitions-là. En fonction de certaines choses, il va savoir reconnaître les endroits où il y a plus de probabilité pour trouver de l'eau. Naam, c'est ce qu'on appelle al-riyafatu. Naam. Donc, on a dit, il y a al-riyafatu. C'est quoi al-riyafa? C'est le fait de retrouver la trace des gens. Il y a al-firasa fi istimbati amakini wujudil ma. Le flair pour retrouver l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle al-riyafa. Et enfin, il y a aussi al-firasa fi al-bashar. Le flair, l'intuition pour reconnaître les personnes. Aïwa. Yani, la personne, elle n'est plus là, elle lui est capable de te dire la personne qui est passée par ici, il est de telle tribu, ou là c'est un homme, ou là c'est une femme, ou là c'est ceci, ou là c'est cela. Ou en voyant juste le membre, une main ou un pied de quelqu'un, il va dire lui, il est de telle lignée ou la gharib. Et ça, c'est ce qu'on appelle, avec l'aïn, al-iyafa. Non. Et ça existait, et les Bani Moudlij étaient connus pour à la fois l'iyafa et al-qiyafa. C'est-à-dire retrouver la trace des gens et reconnaître les gens. Et ce qui nous le prouve, justement, il y a un hadith dans le Bukhari et Muslim, qui nous dit que Aïcha radiallahu anha dit « دخلت ذات يوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور فقال لي يا عائشة ألم تري أن مجزز المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وقد غطيا وجوههما وبدت أقدامهما فلما نظر إلى أقدامهما قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. Donc, dans ce hadith authentique chez le Bukhari et Muslim, Aïcha nous raconte, elle dit, un jour je suis entré auprès du professeur sallam, et j'ai vu qu'il était joyeux. Il était joyeux, il était content. Aïwa. Et elle a dit, je suis rentré, il m'a dit, n'as-tu pas vu Muzajjij des Bani Moudlij. Le Muzajjij, c'est son surnom, des Moudlijid, de la tribu des Bani Moudlij, et vient de venir. Et il a vu Oussama et Zayd, qui étaient couverts d'un drap. Ils ont couvert le haut du corps d'un drap, et ils ont laissé apparaître leurs pieds, et lui, il est rentré au pied d'eux. Et il a vu les pieds. Et il a dit, ces pieds ont la même origine. Ils sont mélangés les unes aux autres. Pourtant, Oussama est noir et Zayd est blanc. Et Oussama, c'est le fils de Zayd. Et les idolâtres se moquaient d'Oussama en disant « T'es noir et ton père, il est blanc. C'est pas ton vrai père. Il y a quelque chose. » Et il l'insultait comme ça, il le calomniait comme ça. Et ça faisait du tort, même au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était parmi les plus proches compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque Zayd, le père d'Oussama, a été au tout début le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a été un des tout premiers convertis à l'islam, Zayd ibn Haritha. Et il a donné naissance à Oussama. Et Oussama était noir, son fils était noir, alors que lui, il était blanc. Aïwa. Et donc les gens disaient, non, c'est pas possible. Il y a quelque chose. Surtout les idolâtres, naam. Et ce mot de léger, cette personne qui est connue, c'est ce qu'on appelle un qa'if, yani un flaireur, quelqu'un qui avait cette science-là, il est rentré, il a juste vu les pieds. Une paire de pieds blanches et une paire de pieds noirs. Il a dit, ces pieds-là, ils ont le même sang, ils sont ensemble. Pourtant, sinon on voit ça. Tu vois deux pieds blancs et deux pieds noirs. Non, ces deux amis, c'est tout, ils n'ont rien à voir entre eux. Mais lui, non, tout de suite il l'a vu, parce que c'est son flair, il sait. On aurait dit peut-être s'il a vu le visage, il va voir qu'il y a un air de ressemblance, même si c'est pas la même couleur, il ressemble à son père, l'autre il ressemble à son fils, etc. Pourquoi pas? Non, il n'a pas vu les visages, il ne les connaît pas, il a juste vu les pieds. Et justement, lui-même, ça l'a étonné, parce qu'il connaît cette science, et il voit la couleur blanche avec la couleur noire, et tout de suite, il a dit, ses pieds, c'est les mêmes, yani. Il y en a un qui est le père de l'autre ou le frère de l'autre. Et c'est pour ça que le professeur Sam était joyeux. Parce que les idolâtres croyaient fermement en cette science. Et donc ça a été un argument pour dire, arrêtez vos calomnies. Muzajjij, un professionnel dans cet art, qui vient des Bani Mudlij, a dit, « Inna hadhihi al-aqdam ba'duha min ba'd. » Ses pieds sont unis les unes aux autres. Sont unis les uns aux autres. Naam. Donc, cette science existait et elle peut encore exister. Mais pourquoi elle n'existe plus aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on se repose sur nos lauriers. On a tellement de moyens technologiques et autres qu'on ne développe plus les compétences avec lesquelles Allah Azza wa Jal nous a créés. À quoi ça sert de compter? D'être un artiste dans les calculs? Tu prends une calculatrice. Tu n'as même pas besoin de prendre. Avant, il fallait prendre une calculatrice. Maintenant, juste ton téléphone, tu calcules. À quoi ça sert de faire des recherches, de lire? Ta chère Google qui est là. À quoi ça sert? Etc, etc, etc. Donc à cause de tout ça, des choses qui sont de la compétence humaine, on les perd. Parce qu'on se repose sur des choses dont on n'a pas normalement à se reposer. On peut se reposer pour se faciliter, mais on ne doit pas se reposer uniquement sur ces choses-là. On doit développer les compétences avec lesquelles Allah Azza wa Jalla nous a créés. Sinon, on devient des robots. Aujourd'hui même, pour faire les courses, tu es devant chez toi, affalé dans ton canapé, tu fais chrono drive, là, je ne sais pas quoi, hein, ou là, au champ drive, tu appuies et tu n'as plus qu'à aller chercher. Et bientôt, tu ne vas même plus bouger, ils vont venir chez toi. Et même, à ouvrir la porte, tu ne vas plus l'ouvrir bientôt. Il suffira juste d'ouvrir la bouche et on va te mettre tout ça dans la bouche, comme dans un entonnoir. Va, t'harraka, sahbi, bouge un peu, vis. Sors, va sentir l'air de dehors. Non. Et ces sciences-là, le fera, ça, certains savants ont essayé de s'y intéresser. On sait par exemple que l'imam Shafi'i, rahmahullah, était quelqu'un qui était connu pour avoir une grande firasa, un grand flair, une grande intuition. Et il a voulu justement s'intéresser à cette science. Et il a dit, on raconte justement, c'est l'imam Sakhawi, rahimahullah, dans son livre Le Maqasid, qui raconte cette histoire. Il dit, l'imam Shafi'i, rahimahullah, il est parti au Yémen. Parce que le Yémen était aussi connu pour ça. Et il a dit, il est parti, l'imam Shafi'i, pour rassembler tout ce qu'on sait sur cette science de l'Firasa. Il est parti au Yémen et il a rassemblé tous les livres, il a écrit tout ce qu'il a entendu des savants de cette science. Et quand il pensait qu'il avait assez rassemblé de choses, comment reconnaître les gens, etc., il a dit, c'est bon, je voulais revenir à la Mecque. Et il a dit, sur le retour, à un moment, la nuit est tombée, j'ai rencontré une personne. Et dans cette histoire, l'imam Sakhawi raconte, il dit, cette personne était avec des yeux de telle couleur, un front comme ça, une taille à peu près comme ça, une démarche comme ça. Non. Il lui dit précisément comment il était. Je ne vais pas le dire, Léana, si je dis exactement comment il était. Certains vont penser donc que si l'imam Shafi'i a dit ça à propos de cette personne, toutes les personnes qu'on va rencontrer qui ont ces yeux-là ou cette démarche-là, alors c'est la même chose. Pourquoi? Parce que l'imam Shafi'i, dès qu'il l'a vu, en fonction de ce qu'il venait d'apprendre avec le Firasa, il a dit, ça fait partie des catégories des personnes les pires. Avec ceux qui ont les plus mauvais comportements et ceux surtout qui sont les plus radins et qui sont les moins hospitaliers. Et pourtant, l'imam Shafi'i n'a trouvé que lui. La science qu'il venait d'apprendre lui dit, méfie-toi de lui. Regarde ses yeux, comment ils sont, regarde son front, regarde sa démarche, regarde ceci, regarde cela. Mais il lui demande, il lui dit, est-ce que je peux trouver un endroit où dormir? Il lui dit, viens chez moi. Il lui demande, est-ce que je peux trouver un endroit où dormir? Il lui dit, viens chez moi, marhaban, ahlan wa sahlan. Donc il commence à avoir le doute, l'imam Shafi'i. J'ai passé des mois à apprendre une science qui m'indique que cet homme, il peut tout être sauf hospitalier. Et quand je lui demande, montre-moi juste un endroit où je peux dormir, il dit, viens chez moi. Gharib. Elle dit, il m'a laissé la plus grande pièce de sa maison. Il a goinfré ma monture pendant la nuit, il lui a donné de la paille et tout ce qu'elle avait besoin pour se redonner des forces. Il a envoyé son servant avec un repas copieux, avec des boissons. Il m'a envoyé des couvertures molles pour pouvoir m'allonger dessus et des couvertures pour pouvoir me couvrir. Le matin, la même chose, le petit déjeuner, etc. Et il a dit, et il a pris tous mes livres, il a dit je vais les conserver pendant la nuit. Il a pris tous mes livres, il les a préservés, yani, au lieu de les laisser dehors. Il a dit c'est tout. Je me suis dit pendant tous ces mois j'ai perdu mon temps avec cette science. Et la science que je viens d'apprendre, elle m'indique que Hada, il ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Et pourtant je viens de le vivre. Le matin donc il se réveille, il le remercie et il lui dit y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi ? L'homme qui l'a accueilli, il lui a dit, il n'y a rien, juste une chose, c'est que le repas que tu as pris hier, il coûte autant, les couvertures, c'est autant, les montures, je leur ai donné ce qu'il fallait, c'est autant, je suis gentil. Non, ensuite, l'imam Shafiri, donc, il lui donne, il lui dit, il y a autre chose. Il lui a dit la location pour la nuit. Je t'ai donné la plus grande pièce de ma maison. Combien ? Autant. Il lui a dit, tiens. Il a dit autre chose. Il a dit, il y a les livres qui m'ont vraiment gêné pendant la nuit, parce qu'il y en avait beaucoup. Mais ma'alish, je suis généreux, ça je te le laisse. L'imam Shafi'i rahmanullah, il lui a dit, barakallahu fik. Il lui a dit, je n'ai jamais vu une aussi mauvaise personne que toi. Et il est parti, il l'a laissé. Et là, finalement, il a quand même voulu faire confiance à cette science. Non. Et après, ensuite, il a écrit un livre sur cette science qu'il a. Ce livre s'intitule Al-Tanqih fi ilmi al-Qiyafa. C'est un ouvrage qui a été écrit par l'imam Al-Shafi'i, rahimahullah. Donc, ça, ce sont des choses qui existent et qui sont données à certaines personnes. Aïwa. Mathalan, Afwan, le professeur sallam dit. إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم بالإشارات يعني الله عز وجل a des serviteurs parmi ses serviteurs, il y en a certains, pas tous, c'est donné que à certains, qui arrivent à connaître les gens, à reconnaître les gens en fonction de tawassum. Tawassum c'est quoi? Des signes, juste des indices. Toi, pour toi, tu vois que l'indice, pour toi, c'est quelque chose de normal. Regarde ses oreilles, comment ils sont. Et ouais, ses oreilles sont comme ça, ils sont comme ça. Voilà, c'est qui vache. Et non, et ben pour moi, ses oreilles, ça veut dire que ceci. Arrive. Eh bien, ça, c'est donné à certaines personnes. Inna lillahi ibadan ya'rifuna an-nasa bit-tawassum. Et le Coran, il fait référence à ça. Tawassum, ça vient du terme sima, le signe. Simahum. Parmi leurs signes, Allah Azza wa Jalla parle des pieux, des croyants. Parmi leurs signes, on reconnaît leur visage à la trace de la prosternation. Ici, il y en a beaucoup, ils entendent le verset, ils pensent que c'est la trace qui est ici, là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est la lumière dans le visage. Il y en a, c'est possible que quelqu'un n'ait pas cette trace-là, hein? Et pourtant, il a la trace de la prosternation, c'est-à-dire la trace de la piété sur son visage. Et c'est possible, quelqu'un, il y a une cicatrice gare ici. Voilà, Kinwalo. C'est juste qu'il se prosterne sur le carrelage, alors ça lui a fait ça. Non. Ou sur un tapis de paille. Donc ça ne veut rien dire. Et then, ce que ce verset dit, comme les savants nous l'expliquent, c'est que tu vois au visage de la personne, mais ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui peut le voir. La lumière de la prosternation. Aïwa. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal, il dit, quand il parle du peuple de Lot, et il dit la malédiction qui s'est abattue sur eux, et que les pierres du ciel se sont abattues sur eux, et que la ville s'est écrasée, elle s'est retournée, la terre s'est retournée, il termine, quand il raconte le châtiment qu'ils ont eu, il termine par ce verset, il dit « Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin » Il y a en cela des signes. Pour qui ? Al-mutawassimin, c'est-à-dire ceux
qui trouve à partir de signes.
Tu lui donnes juste des signes, c'est bon, il fait le reste. Toi, tu as besoin qu'on te fasse tout le travail pour comprendre, qu'on t'explique tout. Ah, d'accord. Et même comme ça, quelquefois, je comprends. Mais il y a des gens, juste quelques indices, et ils trouvent. Et Allah Azza wa Jal, c'est comme s'il donnait quelque chose, il parle de cette histoire, et c'est comme s'il nous disait, derrière cette histoire, il y a quelque chose, mais seules certaines personnes, ceux qui vont loin dans la réflexion à travers les signes, vont le comprendre. Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin. Il y a en cela des signes pour ceux qui trouvent à partir des signes. Aïwa. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, entre autres, ça peut être par exemple la police scientifique. Yani quand il y a un crime, le criminel a tué quelqu'un par exemple, et il a tout fait pour ne laisser aucune trace, il a commis son crime et il a tout fait. Et il part, le criminel. Quelquefois même le corps a été noyé, brûlé, que sais-je. Et il y a des gens qui sont formés, ce qu'on appelle la police scientifique ou la police criminelle, des gens qui sont formés pour, alors que tout a été fait pour brouiller les pistes, pour essayer de remonter la trace de celui qui a fait telle chose. Alors il y a les empreintes, il y en a, ils mettent des gants. Aujourd'hui il y a l'ADN. L'ADN, Ibadallah. C'est-à-dire si tu as laissé une goutte de salive, un petit cheveu y est tombé et ça tu ne peux pas le contrôler, khlas, t'es foutu. Ils vont te retrouver. Naam. Des signes auxquels tu ne penses pas. Et donc ça, c'est l'ancêtre de cette science-là. À la base, c'était ça. C'est ce dont on parle. Al-qiyafa, wal-iyafa, wa al-riyafa. Naam. Donc ça, ce sont des choses, comme on a dit, qui existaient et que les Bani Mudlij étaient connus pour ça à l'époque. D'ailleurs, aujourd'hui, les savants de l'Arabie Saoudite disent, à l'époque, les Bani Mudlij étaient connus pour ça. Et aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle une grande tribu connue dans la péninsule arabique aujourd'hui, qui s'appelle les Al-Murra. Donc c'est une science qui continue encore aujourd'hui. Et les gens du désert, qui vivent dans le désert, même en 2016, ils s'attachent encore à des connaissances comme ça parce qu'ils en ont besoin. Ils disent, aujourd'hui, c'est les Al-Murra. La famille, la tribu de Murra. Non, qui sont connus aujourd'hui pour ça. Même si ça ne veut pas dire que c'est exclusif à eux, ça peut être d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec cette tribu-là. Non. Taïb. Idan, on a dit, les Bani Mudlij étaient connus. Donc qu'est-ce qu'on comprend à travers le hadith qu'on a cité de Suraqa ibn Malik ibn Jurshum? On comprend que les Quraysh, ils ont été chercher les meilleurs. Les Bani Mudlij sont connus pour ça. Et il se trouve qu'ils ne sont pas loin de la route qu'a emprunté le guide du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il a emprunté la route qui mène à travers les Bani Mudlij? Parce qu'ils sont vers la côte, donc c'est pour brouiller les pistes. Mais ils ne s'étaient pas imaginé que les Quraysh allaient arriver jusque-là et allaient leur demander leur aide. Naam. Et là, donc Suraqa ibn Malik, qu'est-ce qu'il nous dit? فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِ بَنِي مُدْلِجْ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة أراهما محمدا وأصحابه فعرفت أنهم هم فقلت له إنك رأيت إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا قد انطلقوا بأعيننا. Qu'est-ce qu'il nous dit la suite du hadith? Donc Suraqa ibn Malik nous dit, alors que j'étais assis dans une assemblée de ma tribu, l'un d'entre eux des Quraysh est venu, parce qu'il recherchait tout ça, et il dit, pas loin de votre tribu, j'ai vu au loin à l'horizon des silhouettes, des silhouettes de voyageurs. Je pense, vu la route qu'ils ont empruntée, que ça ne peut être que Mohammed et ceux qui l'accompagnent dans sa fuite, dans son émigration. Suraqa ibn Malik, qui est des Bani Mudlij, et qui est un expert dans l'art de retrouver la trace des gens, et qui veut la rançon, il dit, فَعَرِفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ. Dès qu'il me l'a dit, son flair, c'est eux. Par rapport à l'endroit où il leur a dit où ils sont passés,
Lui, il sait les endroits que suivent les voyageurs. Il est expert dans cet art. Il a dit « Fa'ariftu annahum hum ». J'ai su tout de suite que c'était eux. Mais il veut la rançon. Donc qu'est-ce qu'il va dire ? Il va lui dire « C'est pas eux. C'est impossible que ce soit eux. » Et quand il lui dit ça, c'est pas n'importe qui. Le Quraysh, pourquoi il demande à Suraqa ? Parce qu'il sait que c'est un expert dans cet art, donc il va avoir son avis. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que je peux aller vers cette route-là parce que je les ai vus au loin ou je vais perdre mon temps ? Ben, il me dit, Suraqa ibn Malik, tu vas perdre ton temps. C'est impossible. Par contre, eux, je sais qui c'est. C'est un tel et un tel. Parce qu'ils sont partis de chez nous, ils sont passés par chez nous, ils étaient en voyage et ils sont passés par là. Tu perds ton temps. Va de l'autre côté. Et il est parti de l'autre côté. Suraqa ibn Malik dit, et j'ai fait semblant de continuer la discussion pour ne pas attirer l'attention aussi des autres de Bani Mudlij qui voulaient aussi les retrouver. Et j'ai discuté. Et ensuite, je me suis faufilé discrètement. Pour faire quoi ? Eh bien, pour aller retrouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et Suraqa ibn Malik nous raconte comment ça va se passer. Et comment il va user de toutes les superstitions qu'il avait à l'époque pour atteindre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Et il va nous raconter comment est le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il voit qu'un ennemi l'a retrouvé et qu'il se dirige droit vers lui avec une lance pour le tuer. Et il va nous raconter la réaction aussi d'Abu Bakr et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va pouvoir ou non s'en sortir de ce piège que lui tend Suraqa ibn Malik, mais tout ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Bidnillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.